Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Faux papiers, cartes bleues volées, armes, cocaïne. À l'automne 2018, sur le Darknet, la face cachée d'Internet, un supermarché du crime français est démantelé.
La Manoir ou Black Hand, une des plateformes françaises les plus secrètes. 3000 clients qui, pour une cotisation de 50 euros, achetaient de la drogue, des armes, des faux papiers.
L'enquête judiciaire vient d'être clôturée le 16 janvier. 6 suspects doivent être jugés d'ici la fin de l'année. Et parmi eux, un brigadier de la DGSI. Il vendait des informations confidentielles provenant des fichiers de police. Cet épisode de Code Source est raconté par 3 journalistes du service police-justice du Parisien. Jérémy Famelet, Éric Pelletier et Vincent Gautrenot. Jérémy Famelet, le 24 septembre 2018, que se passe-t-il à la DGSI à Levallois-Perret?
C'est une scène assez surréaliste pour un service à la culture du secret. Un fonctionnaire de la DGSI, un enquêteur en antiterrorisme, est arrêté sous les yeux de ses collègues. En fait, il est convoqué par son chef de service pour un motif futile. Puis, un enquêteur qui est au fond du bureau va lui demander « Est-ce que c'est toi, Horus ?» Il ne va pas répondre, mais il va être menotté, puis transféré immédiatement dans les locaux de garde à vue où il entend lui-même les suspects.
On va prendre le temps de raconter cette histoire du début. D'abord, Jérémy Famelet, qu'est-ce qu'on sait de l'enfance de cet homme qui a aujourd'hui une trentaine d'années?
Ce policier qu'on va appeler Cédric, il a grandi en Normandie. Il est dans une famille qui évolue dans le milieu des forces de l'ordre. Et lui, il rentre dans la police en 2009 en tant que gardien de la paix. C'est le plus bas de l'échelle. Il est affecté d'abord à la préfecture de police dans la sécurité publique.
Donc préfecture de police de Paris. Qu'est-ce qu'il fait concrètement?
Il s'occupe de sécurité publique et ensuite, il va être enquêteur, mais de sécurité publique. Donc, s'occupera des affaires du quotidien, on va dire, du courant.
Que fait-il ensuite?
En 2017, ce brigadier, qui a plutôt brillé par son expertise technique et notamment téléphonique sur certaines enquêtes, va postuler à la DGSI et va être recruté. Et là, il obtient le grade de brigadier.
Éric Pelletier, à quel service est-ce que Cédric, donc, travaille au sein de la DGSI?
La DGSI est divisée en plusieurs divisions. Lui, il est au cœur de la division J pour judiciaire. Il est au cœur des enquêtes antiterroristes et notamment des affaires qui concernent peu ou prou Internet, les nouvelles technologies. Donc, il est vraiment au centre des choses.
Jérémy Famelet, à ce moment-là, comment est-ce qu'il est perçu par ses collègues, Cédric?
Alors, les commentaires sont clairement dithyrambiques. Hein. Ses collègues, quand ils seront interrogés par les enquêteurs, diront que c'est un agent doué en informatique particulièrement, si bien que c'est à lui qu'on confie l'extraction des données, des téléphones, des supports informatiques recueillis lors des perquisitions chez les suspects terroristes. Et c'est quelqu'un présenté comme brillant, ayant l'assentiment de la hiérarchie. Il avait une très bonne relation aussi bien avec ses collègues qu'avec ses chefs de service, mais il était réputé pour avoir quelques tendances à faire la sieste entre midi et deux.
Au niveau personnel, Cédric est dans quelle période de sa vie?
Si sa situation professionnelle est plutôt bonne, puisqu'il a intégré un prestigieux service de renseignement, sa situation personnelle, elle, est en déclin. Il est surendetté, il a souscrit à des prêts à la consommation de plus de 40 000 euros et il a des impôts impayés. La faute à une vie un peu au-dessus de ses moyens menée avec son ancien compagnon, avec qui il s'est séparé en mai 2015. ce compagnon ne travaillait pas et tous deux avaient tendance à sortir, voyager, rien d'extravagant non plus, mais c'était des dépenses clairement au-dessus de ses moyens, de sa paye de brigadier qui, rappelons-le, est environ de 2000 euros net par mois.
Vincent Gautrenot, à l'occasion d'une enquête, Cédric découvre le Darknet, on va voir pourquoi, mais d'abord c'est quoi le Darknet ?
Le Darknet, c'est ce qu'on peut décrire comme la partie cachée d'Internet. C'est une partie où on n'accède pas si facilement que ça. Pour aller sur le Darknet, il faut télécharger un logiciel comme Tor. Ensuite, il n'y a pas de moteur de recherche sur le Darknet. Pour trouver ce qu'on cherche, il faut connaître l'adresse d'un site Internet bien précis sur lequel on veut aller pour trouver à peu près tout.
Et ensuite, quand on est sur le Darknet avec un logiciel comme Tor, ça ressemble à quoi ?
Le Darknet, c'est Internet. C'est Internet comme on le connaît, comme Google, comme Amazon, comme n'importe quel site. Souvent, la présentation est évidemment moins soignée que ce qu'on peut trouver sur des grands sites grand public. Mais c'est un site Internet. Donc, une fois là-bas, la différence, c'est qu'on trouve de tout. On trouve de la drogue, on trouve des armes, on trouve des faux papiers, on trouve beaucoup, malheureusement, aussi de pédopornographie. On trouve vraiment de tout.
Pourquoi est-ce que Cédric a besoin d'aller sur le Darknet ?
Cédric, quand il commence à aller sur le Darknet, c'est pour les besoins de son travail. Il a une enquête à faire sur une famille islamiste, ou en tout cas présentée comme telle, qui fréquente le Darknet, et donc il commence à s'intéresser aux mécanismes du Darknet, à fréquenter cet univers-là pour son travail.
Et là, Jérémy Famelet, ça le fascine.
Il s'inscrit d'abord lui-même en tant que propre utilisateur, et sur les plateformes sur lesquelles il va s'inscrire, il y a d'une part les forums très libertaires, puisque les discussions ne sont par essence pas surveillées, c'est l'internet clandestin, donc il y a une forme de liberté qui le fascine, et puis il y a ce côté où l'on vend tout ce qui est légal pour quelques euros, et tout est accessible rapidement.
Et Cédric va s'impliquer en particulier sur un site du Darknet baptisé Blackend.
C'est en tout cas le premier site qu'il va fréquenter. Blackend, c'est un site important à l'époque avant d'être démantelé en juin 2018 par les douanes. On trouve à peu près tout. On trouve de la drogue, on trouve des faux papiers. L'administratrice de site dit qu'elle ne veut pas de vente d'êtres humains. C'est une des conditions qu'il y a sur ce site, c'est interdiction de la vente d'êtres humains, ce qui prouve à quel point on peut tout trouver sur le Darknet.
Et Cédric, sur ce site du Darknet, va se faire appeler Horus, Jérémy Famelet. Pourquoi ?
En référence à la figure mythologique à l'œil protecteur et omniscient, lui, il y voit un peu un rappel de ses missions à DGSI, qui est de protéger et surveiller les Français.
Au départ, il découvre le Darknet pour le bien d'une enquête. À quel moment est-ce que ça bascule ?
Au départ, il va être alpagué par un des internautes notoires du site Blackend, justement, un certain Jojo de la Vega, c'est son pseudonyme. En fait, c'est un chômeur des Bouches-du-Rhône qui est réputé faussaire. Ce faussaire a besoin, pour fabriquer des faux documents, d'informations de personnes réelles dont il va usurper l'identité. C'est là qu'il fait appel à Horus en lui demandant « Est-ce que tu ne connais pas quelqu'un qui pourrait m'obtenir des informations tirées de vrais permis de conduire et de cartes d'identité ?» Et c'est là où il va accepter parce qu'il se rend compte que c'est de l'argent facile pour peu de risques. Enfin, c'est ce qu'il croit.
Sur cette plateforme qui s'appelle Blackend, il y a ce qu'on appelle des shops, des petites officines, des boutiques où les gens peuvent vendre différentes choses. Que va vendre Éric Pelletier, Cédric, sur ce site ?
Il vend des choses qui sont tirées des fichiers de police auxquels il a accès. Chaque fonctionnaire peut avoir accès à ces fichiers, pour autant qu'il rentre son numéro d'identifiant informatique. Et ensuite, se dessine une architecture où on accède aux fichiers des permis de conduire, par exemple. Et puis surtout, ce qui paraît complètement incroyable, c'est qu'il permet d'avoir un traçage de n'importe quel téléphone mobile, celui de votre femme, de votre employeur, peu importe, et tout ça contre rémunération, ça coûte en fait pas grand-chose, quelques centaines d'euros, de 100 à 300 euros.
Ce trafic d'informations sensibles, combien est-ce qu'il lui rapporte ?
Pas grand-chose au regard de ce que peut mettre, par exemple, une organisation criminelle ou bien, imaginons, une agence de renseignement étrangère. Lui explique qu'au total, cette arnaque lui a procuré environ 50 000 euros.
Jérémy Famelet, Cédric fait ça sur son temps de travail ?
Oui, alors évidemment, il a droit d'accéder au Darknet dans le cadre de ses missions pour l'antiterrorisme, mais au moment où il lance son commerce personnel, il va quand même utiliser son propre téléphone portable en partage de connexion, comme un modem, pour se permettre aussi de suivre ses activités. Mais la plupart de ses commandes, évidemment, il les reçoit le soir, une fois chez lui, et ensuite va consulter les fichiers de police au boulot la journée.
Pourquoi est-ce qu'il utilise son téléphone portable en partage de connexion ? C'est une mesure de précaution, c'est ça ?
J'imagine que c'est pour se rendre le plus indétectable possible.
Comment est-ce qu'il percevait cet argent ?
L'argent, il le récupérait principalement en bitcoin, en autres crypto-monnaies, et aussi en carte bancaire prépayée. Donc du coup, l'évaluation qu'il donne est assez compliqué à vérifier, puisque par principe, ce genre d'argent n'est accessible que par un réseau chiffré.
Vincent Gautrenot, que disent de lui à ce moment-là ses clients ?
Ses clients, ils sont très positifs sur Horus. Après, il faut voir aussi qui sont ses clients. Ses clients sont des faussaires, des fabricants de fausses cartes d'identité, des voyous. Ce ne sont pas des gens très recommandables. Eux, ce qu'ils veulent, c'est une fiabilité. Et selon les commentaires qu'ils laissaient sur le site internet Black End, ils étaient tous très contents des services d'Horus. Ils disaient, c'est quelqu'un de fiable, on a les documents dans les temps, à chaque fois, on a toutes les informations demandées. Avec lui, tout va bien.
Il assurait le service client. Il proposait un délai de 24 à 72 heures pour obtenir les informations. Et dès qu'il n'arrivait pas pour une raison X ou Y, il proposait immédiatement de rembourser la personne qui a fait la demande.
Son commerce, il a un logo. Concrètement, ça ressemble à quoi sur le site Black End ?
Son commerce, c'est effectivement inspiré de Horus. C'est un œil entouré dans un triangle. Son shop sur Black End, c'est un long texte où il explique ce qu'il propose. Il explique qu'il propose des géolocalisations de téléphones portables, qu'il propose la possibilité d'avoir des numéros d'immatriculation de véhicules, des données personnelles pour faire du doxing, c'est-à-dire dévoiler l'identité de quelqu'un qui cherche à rester anonyme sur le darknet. Il explique qu'il peut avoir des faux numéros de permis. Assez vite, il se spécialisera aussi, il achètera lui-même une machine plastifieuse pour pouvoir créer lui-même les permis de conduire grâce aux données qu'il avait volées dans les fichiers de police.
Jérémy Famlet, à quel moment le vent tourne pour Cédric alias Horus ?
C'est à peu près un an après son arrivée à la DGSI, qui concorde aussi à un an après le lancement de son commerce. Différents services d'enquête vont commencer à s'intéresser à ces supermarchés du crime et vont tomber sur ces annonces. Et en parallèle, un de ses collègues fera noter aux enquêteurs qu'il avait quand même tendance, Horus, sur ses heures de travail, à être de plus en plus sur Internet. Pour lui, même, il y avait des signes que la hiérarchie n'a pas su voir.
Éric Pelletier, qui est chargé de l'enquête à ce moment-là ?
D'abord, le service qui détecte ces anomalies, c'est un service qui s'appelle l'OCRIEST, qui est chargé de lutter contre les faux papiers, notamment les faux documents, qu'utilisent les filières d'immigration clandestine. Il remarque que les faussaires font beaucoup appel à ce fameux Horus, et puis évidemment, ils détectent très tôt la possibilité qu'il puisse s'agir d'un de leurs collègues. Comme ça paraît tellement énorme, la piste l'a envisagée dans un premier temps en tout cas, c'est celle d'un pirate informatique de génie qui aurait pu entrer clandestinement dans les fichiers du ministère de l'Intérieur. Et puis ensuite, on va le suivre, ce fameux Horus, on va le suivre informatiquement. Et là, ça va être la partie qui va être réservée à la cybercriminalité, donc les enquêteurs spécialisés. Et puis troisième temps, lorsque cet Horus, comme un vulgaire espion étranger, aura été repéré, on va entrer dans une autre phase, dans la phase de l'enquête interne, administrative de la DGSI. Là, on est dans le secret défense, donc il faut une inspection interne.
Justement, comment est-ce qu'il est repéré ? Comment est-ce qu'il est confondu ?
Alors là, on est vraiment dans un polar ou une affaire d'espionnage. Comment confondre cette personne qui peut être soit un pirate de génie, soit un collègue de travail ? Quand on sait qu'il y a 140 000 policiers en France, évidemment, c'est très difficile. Donc on va lancer un leurre. On va faire une fausse demande au nom d'une personne, au nom fictif, et on va regarder au travers des fichiers de police qui se connectent pour interroger ce nom-là. Il faut savoir que toutes les connexions, évidemment, sont traçables. Chaque fonctionnaire de police doit rentrer son matricule. Et là, à partir de ce moment-là, on se rend compte qu'un certain Cédric, affecté à la DGSI, un brigadier, pourrait être le fameux Horus.
Vincent Gautrenot, Cédric, alias Horus, n'est pas le seul membre des forces de l'ordre à vendre des informations sensibles sur la plateforme Black End.
Une fois Horus mis hors d'état de nuire, les enquêteurs ils vont pas se contenter de lui. Ils vont interpeller ses clients, dont le fameux faussaire Jojo de la Vega. Cette personne, elle est placée en garde à vue et elle dit assez vite « Oui, j'avoue que je me doutais que Horus était un membre des forces de l'ordre. » Et les policiers insistent et lui disent « Est-ce que c'était... la seule personne à qui vous achetiez des données, des informations ?» Et là, il dit « Non, il y avait quelqu'un d'autre, un dénommé Chouinte, qui me vendait des informations aussi sur le Darknet. » Et il laisse entendre que vu la qualité des informations fournies par ce Chouinte, il y a des chances que ce soit lui aussi un membre des forces de l'ordre.
Pour les cyber-enquêteurs, ce mot Chouinte, ça évoque quelque chose ?
Oui, ça évoque quelque chose et c'est un pied de nez, on peut le penser, de la part de ce fameux Chouinte, c'est que l'acronyme S-O-I-N-T, c'est le nom d'une formation de la gendarmerie que doivent passer tous les cyber-enquêteurs de la gendarmerie, la formation source ouverte Internet.
Et donc là, il y a une lettre de différence, ce H, Chouinte, qui est Chouinte ?
Chouinte, là encore, au départ, les enquêteurs, ils voient juste quelqu'un qui a des informations très sensibles. Ils ont déjà arrêté Horus quelques temps avant, donc ils se disent... L'idée d'un pirate qui infiltre le ministère de l'Intérieur, on n'y croit pas. Donc assez vite, les policiers ont la conviction d'avoir affaire à un membre des forces de l'ordre. Eux, ils vont alors reprendre deux commandes qui ont été faites sur le Darknet à ce fameux Schwint. C'est deux commandes pour identifier les propriétaires de telle ou telle plaque d'immatriculation. Là, les policiers vont interroger le fichier des plaques d'immatriculation, qui est commun à la police et à la gendarmerie, et qui laisse là aussi des traces. Et ils vont se rendre compte que le seul qui a pu faire des recherches sur ces deux plaques d'immatriculation, c'est un certain Christophe, qui est adjudant de gendarmerie.
Il travaille où ?
C'est là que l'affaire est encore plus cocasse, c'est qu'il ne travaille pas n'importe où, il travaille au C3N, qui est le centre spécialisé dans les cybertechnologies de la gendarmerie nationale à Pontoise.
C'est un cyber-enquêteur ?
C'est un cyber-enquêteur, c'est quelqu'un qui est, lui, pour le coup, très rompu au Darknet. C'était son travail, de chasser les vendeurs du Darknet.
Et d'après l'enquête, qu'est-ce qu'il vendait comme information ?
Lui vendait, tout comme aux Russes, des fichiers de police. Des fichiers pour fabriquer des faux permis de conduire, pour fabriquer des fausses cartes grises, des attestations d'assurance. Là, c'est la première partie des choses qu'il commercialise sur son shop, comme ils appellent ça. Il vend un autre service qui est là encore plus surprenant, même s'il faut toutefois préciser qu'il n'est pas mis en examen pour cela, donc on n'est pas certain qu'il ait pratiquer ce service, c'est des livraisons. Il précise dans son annonce sur son shop, avoir un véhicule passe-partout, on peut peut-être penser à un véhicule de gendarmerie, et qu'il est prêt à livrer à peu près partout des colis d'un poids maximum de 100 kilos. Il précise quand même, visiblement il avait encore quelques interdits, il précise qu'il ne souhaite pas faire de transport de cadavres.
Éric Pelletier, on revient à Cédric alias Horus, le policier de la DGSI. Il va vendre aussi des données de géolocalisation sur certains individus.
Oui, là, on tombe dans le volet le plus noir de l'enquête, qui est loin d'être terminé d'ailleurs, et qui se situe plutôt du côté de Marseille. Alors, il faut reprendre un peu les choses. Horus, policier à la DGSI, propose ses services, et en l'occurrence, les policiers observent qu'un certain CVV Gold va lui demander de géolocaliser des portables, au moins trois d'entre eux appartenant à trois personnes, et ces personnes ne sont pas n'importe qui, puisqu'elles appartiennent au grand banditisme, au milieu marseillais, et la suite prouve que deux de ces trois personnes ont été assassinées. Donc aujourd'hui, se profile l'hypothèse selon laquelle les informations fournies par Horus, policier à la DGSI, ont servi potentiellement dans deux assassinats et dans une tentative du côté de Marseille. Et c'est l'autre volet de l'enquête qui est en cours à Marseille.
Jérémy Famelet, d'un mot, on sait si Cédric a conscience que ces informations ont pu servir à des règlements de compte ?
Alors lui, en garde à vue, il dit que non. Il explique que ses motivations étaient uniquement pécuniaires et que lorsqu'il transmettait les informations qu'on lui demandait, il ne cherchait pas à savoir quelles étaient leurs finalités. En revanche, plusieurs fois, il est quand même tensé par la juge d'instruction. Et effectivement, il dit « j'avais conscience que certaines cibles n'étaient pas des enfants de cœur, mais je me suis voilé la face parce que pour moi, cela ne me regardait pas ».
On revient au début de ce podcast, le 24 septembre 2018, quand Cédric est arrêté, menotté à son bureau à la DGSI à Levallois-Perret. Que se passe-t-il ensuite pour lui ?
Alors d'abord, il fait un acte de contrition important, puisqu'il dit qu'il s'est voilé la face, qu'il est rentré dans un engrenage et qu'il avait besoin de cet argent pour assurer la sécurité financière de son conjoint, qui est étudiant et qui n'avait pas de revenus, et parce qu'il était endetté. Et voilà, il demande à la juge d'instruction, il est important pour moi de ne pas aller en prison, puisque ayant été enquêteur en terrorisme, j'ai travaillé sur beaucoup de détenus dans les prisons franciliennes.
Il est malgré tout placé en détention provisoire.
Et il sera envoyé à Fleury-Mérogis et il va retrouver des détenus sur lesquels il enquêtait, notamment un Irakien accusé de crimes contre l'humanité. Il va aussi retrouver d'autres ripoux de la police, dont un de la police aux frontières accusé de trafic de drogue. Et lui, pour s'éviter des ennuis avec les détenus islamistes, il va raconter qu'il est un policier de la brigade des stupéfiants qui s'est servi sur les scellés, donc sur la marchandise. Et sa proximité va un peu gêner avec certains détenus, donc juste avant d'être remis en liberté sous contrôle judiciaire, il va être renvoyé dans une prison en Bretagne.
Il est donc en liberté sous contrôle judiciaire depuis septembre 2019. Qu'est-ce qu'il fait concrètement de ses journées ?
On a pu parler avec l'un de ses proches. Horus, aujourd'hui, se présente comme repenti, c'est certain. Il a même écrit une lettre au ministre de l'Intérieur et à l'Élysée pour demander sa démission de la police parce qu'il considère qu'il n'est plus digne d'en faire partie. Il travaille aujourd'hui hors de la police. Son contrôle judiciaire lui interdit d'avoir une activité en lien avec Internet. Il a plutôt un boulot précaire et il se présente comme quelqu'un d'effondré qui veut tourner la page et qui a conscience de la gravité de ses actes et du mal qu'il a fait à son entourage puisque son compagnon est lui aussi mis en examen, soupçonné d'avoir eu connaissance de ses activités occultes.
Il regrette ce qu'il a fait vraiment ?
C'est ce qu'il dit en tout cas. Il se présente vraiment comme quelqu'un qui a dérivé et qui sait très bien qu'il risque de retourner en prison à l'issue de son procès.
Oui, il faudra voir quels sont des suites et au niveau notamment du jugement, mais c'est vrai que sa hiérarchie doute de cet acte de contrition. Et d'ailleurs, on ne peut pas s'empêcher de penser que les directives de Matignon de mardi, qui vont dans le sens d'un meilleur contrôle des agents des services d'enseignement, sont en partie inspirées des défaillances de l'affaire Horus. Parce que finalement, il s'agit de quoi ? De contourner les contrôles stricts qui sont mis en place par l'administration, et on a quelqu'un dans la place qui, à des fins personnelles et avec de la corruption, va permettre d'espionner à peu près n'importe quel Français.
Au-delà des cas de Cédric et de Christophe, qui sont les plus surprenants parce qu'il s'agit de cyber-ripoux, est-ce qu'on sait qui animait cette fameuse plateforme Black End sur le Darknet ?
Oui, les policiers l'ont découvert au cours de leur enquête et ont là aussi été étonnés. Ils sont tombés sur une jeune femme de 30 ans, mère de deux enfants, sans emploi, installée dans le nord de la France, une mère divorcée, en tout cas séparée de son conjoint, une femme qui n'a pas de compétences particulières en informatique, surnommée sur le site Anouchka. Et donc c'est cette femme de 30 ans qui est aujourd'hui elle aussi mise en examen.
Merci à Jérémy Famlet, Éric Pelletier et Vincent Gautronneau. Production Clara Garnier-Amouroux. Réalisation Benoît Gillon. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner gratuitement sur votre application de podcast, comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Vous pouvez aussi nous mettre des petites étoiles et puis n'hésitez pas à nous écrire codesource@leparisien.fr.